Bon ben, Guillaume, vas-y.
Bonjour, Guillaume Paris de l'Université de Montréal. En fait, présentation très intéressante. Mon Dieu, il y a du monde en avant. Présentation très intéressante, en fait, à la fois le premier bloc et le deuxième bloc. C'est plus pour partager peut-être une expérience, en fait, qu'on fait à l'université. Nous, depuis plusieurs années, en fait, on a révisé notre guide d'information sur le consentement pour non plus adopter une approche où, comment dire, ça favorise le copier-coller chez le chercheur, mais bien lui donner les outils pour qu'il soit en mesure de vraiment s'approprier la réflexion qui doit faire à l'intérieur du processus de consentement. Ça a été un processus long, mais graduellement, les chercheurs commencent à comprendre que ce n'est pas que de réutiliser l'ancien formulaire de consentement en changeant les noms sur la page frontispice, c'est vraiment de faire un travail de réflexion. Mais pour ce faire, le comité a été obligé aussi de faire un peu de travail de son côté et d'accepter des fois que l'information soit présentée différemment. Donc, ça, c'est un des premiers trucs qu'on a essayé. Et dans les formations, parce qu'on a le luxe de en fait, c'est pas un luxe, c'est un mandat, mais pour certains, c'est considéré comme un luxe, de pouvoir donner de la formation aux chercheurs et aux étudiants. Et un exercice que je fais et que j'ai encore fait hier avec un département complet, c'est de leur faire lire des extraits de formulaires de consentement de projets qui ne sont pas de leur discipline. Et ça les place dans une situation à ce moment-là où, sortis de leur domaine, ils n'y comprennent rien, mais rien. Et à partir de là, après ça, on est capable de travailler ensemble et de leur expliquer c'est quoi le travail de vulgarisation, c'est quoi le travail qu'ils doivent faire après ça lorsqu'ils présentent l'information à des gens qui, bien souvent, comme tous les présentateurs l'ont dit, ont un niveau de scolarisation qui est nettement inférieur au leur ou encore un niveau de littératie qui est complètement différent du leur. Mais c'est un travail qui est long, et voilà. Autre chose qu'on a fait et que systématiquement on fait, quand vous parliez des, par exemple, des, je me permets de prendre la place parce qu'il n'y a personne d'autre au micro, donc, sinon, lancez-moi des crayons puis je vais arrêter. Mais une autre chose qu'on a fait depuis plusieurs années, c'est une page dédiée expressément aux participants sur le site de l'Université de Montréal. OK, elle n'est vraiment pas à jour parce qu'on a bien d'autres priorités, mais n'en reste que l'objectif de ça était, entre autres, de faire un peu le petit bréviaire, si je peux dire, des droits des participants qui sont les mêmes, peu importe la nature du projet de recherche au final, de sorte à ce qu'on soit en mesure d'alléger l'information qu'on leur transmet lors du consentement. Donc, voilà, c'était juste de partager cette expérience-là au bénéfice de tous. Donc,
merci.
Voilà.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir parmi les conférenciers sur ce que Guillaume vient de dire?
Mais peut-être brièvement. Oui. C'est durant la pause, on avait une conversation sur la question des formulaires de consentement avec une dame. Puis la question était, est-ce que c'est un contrat d'adhésion ou bien si c'est quelque chose qui donne de l'information? Puis je pense que ce qui me dépite le plus à force d'entendre, la question est pertinente, intelligente, là, c'est pas un problème, là. Mais c'est de percevoir le droit comme étant une espèce de machine à imbécilité récurrente et chronique. Que la loi devienne ça. Puis en fait, c'est pas la loi qui est stupide, là. Le reste de la phrase, vous pouvez le deviner. Il y a une autre façon de faire du droit que de façon idiote, où les gens comprendront pas le formulaire. L'esprit du juriste, c'est pas un esprit de faire que ce soit compliqué, que personne va comprendre. Vous connaissez la pièce de Shakespeare où celui qui veut devenir despote se promet que la première chose qu'il va faire quand il va avoir atteint le trône, ça va être d'éliminer tous les avocats du royaume. C'est parce que les avocats sont supposés protéger les gens contre le despotisme. Que des avocats travaillent pour compliquer des affaires en se le faisant dire, tu compliques inutilement, les gens comprendront pas. Je trouve ça idiot. Voilà.
Force?
Oui, ça.
Une autre question?
Alors, Mahmoud Rouabi, l'Université Laval, président du comité d'éthique en sciences de la santé, mais je vais vous poser la question en tant que chercheur. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il va y avoir un seul formulaire de consentement qui doit être appliqué pour tous les projets de recherche, cliniques ou non cliniques, ou c'est un projet ou un formulaire de consentement qui va être modulable et modulé selon 1. la pertinence, oui, mais aussi selon ce qu'on va demander aux participants à faire. Et l'autre point qui est clé là-dedans, c'est que je dois, en tant que chercheur, donner le minimum d'informations qui va permettre à ce participant-là de comprendre ce que je vais faire. Mais si je prends les deux blocs de présentation cet après-midi, il y a un bloc où il me dit il faut simplifier le maximum, le formulaire de consentement, et l'autre bloc il me dit il faut donner le maximum d'informations pour que le participant comprenne le maximum possible ce qu'on veut faire avec ça. Et le troisième point, c'est il faut vulgariser le plus possible. Mais si j'ai une molécule qui est la dihydrométhylbenzo, blablabla, comment voulez-vous que je trouve un mot qui va vulgariser ce mot-là, mis à part, je vais vous donner un médicament, ou je vais vous donner une molécule chimique. Donc vous voyez le dilemme auquel on peut se retrouver.
Je vais me permettre de commencer la réponse. Bien entendu, tout le monde peut intervenir. Moi, ce que j'ai compris de l'ensemble des présentations, c'était pas de dire d'un côté, faut raccourcir le plus possible le formulaire de consentement, et de l'autre côté, faut fournir une foule d'informations pour être sûr que tout soit là. Je pense que le message qu'on envoie, c'est comment l'information doit être présentée pour que le participant retire le maximum de bénéfices. Et là, je pense que c'est là que tous les intervenants qui travaillent dans les projets de recherche ont un apport important à apporter. Des fois, on peut remplacer 10 mots par un. Si le mot est mieux choisi, ça atteint le but. Et une image peut remplacer un paragraphe. Mais c'est justement, il faut s'adapter au profil des participants, à leur réalité. Il y a la réalité des projets aussi. Un format d'organigramme comme celui que j'ai montré pour l'étude en thérapie cellulaire serait probablement totalement inutile dans un autre type de projet. Donc, c'est là qu'il faut développer une expertise. Mais je pense que le message que Sylvie et moi, qu'on voulait mettre de l'avant, c'est que on est, vous le voyez ici, des centaines de personnes qui travaillent d'arrache-pied dans le domaine. Il faut partager nos acquis. Plus on va partager les expériences, le feedback des participants, plus on construit sur les bons coups que chacun a fait, au lieu que tout le monde travaille dans son coin et que tout le monde doit repenser à la même idée et la retester chacun de son côté. Moi, je pense que c'est la partie de la réponse que je veux donner. Je ne sais pas si d'autres veulent...
Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose?
J'aurais envie, en fait, de poser une question. C'est peut-être farfelu, comme je dis. Moi, je ne suis pas... issus du domaine de la recherche, mais peut-être que ça vaudrait la peine, à un moment donné, de s'asseoir avec des potentiels participants, puis avant même de leur parler du projet de recherche, de leur poser la question « qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce projet de recherche-là? » Puis vous seriez probablement surpris d'entendre que ces gens-là, c'est quoi les préoccupations de ces gens-là. Puis pour aller dans le détail, je pense qu'à un certain point, les gens... Le détail de la procédure qu'on va leur faire ou de la molécule qu'on va leur donner, c'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent... être rassuré sur le fait qu'on va pas leur faire de tort, que le projet de recherche est encadré, qu'ils peuvent se retirer, puis qu'ils ont la possibilité de dire oui ou de dire non. Je pense que je vais juste poser la question, qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce projet de recherche-là? Vous seriez surpris des réponses. Puis ça aiderait à bâtir, je pense, par la suite, le type d'information qu'il faut, qui est le mieux d'amener, là.
Annick, vas-y.
Oui, bonjour, Annick Nollet, coordonnatrice à l'éthique de la recherche pour les établissements du CRIR. En fait, ce que je voulais dire, c'est plus un commentaire. C'est vrai qu'il faut adapter les formulaires de consentement à la clientèle qu'on a devant nous. Pas simplement vulgariser, mais les adapter. Et nous, en réadaptation, on a souvent des participants aphasiques. Donc, on a mis en œuvre des formulaires de consentement avec des pictogrammes qui ont quelques phrases et qui expliquaient en même temps. Et lorsque les membres du comité d'éthique ont vu ces formulaires de consentement-là, même eux trouvaient l'information plus facilitante de cette façon-là. Et ont même suggéré que ça pourrait être repris pour d'autres types de projets, pas nécessairement pour des personnes aphasiques, mais des sujets qui sont en santé ou tout ça, pour que le message passe davantage. Donc, l'utilisation de moyens autres pour obtenir un consentement, je pense que c'est une façon de considérer puis de sortir de, justement, comment on procède actuellement.
Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose dans les conférenciers?
Sur la question du formulaire de consentement unique, c'est qu'en fait, c'est une absurdité, cette histoire-là. C'est pas compliqué. Puis les gens qui vont travailler là-dessus vont perdre leur temps, puis ils vont dépenser des fonds publics de façon inutile. C'est pas comme ça qu'il faut envisager ça. Il faut envisager ça en termes de formulaire qui est modulaire. Ce qui est à l'origine de dire on va avoir des éléments dans le formulaire de consentement qui vont être imposés, puis c'était carrément ça à l'origine, c'était qu'on trouvait dans des formulaires de consentement qui provenaient de chercheurs subventionnés par des entreprises américaines en particulier, des clauses qui étaient illégales ici. Puis on se disait, ces folies-là, on va les enlever. Puis là, il y avait aussi là toute la petite histoire du courrier aller-retour. Alors, avec des entreprises qui prennent des semaines avant de te répondre, des avocats qui te téléphonent, qui disent « je lâche pas la ligne avant que vous m'ayez dit oui », à accepter des choses qui sont carrément illégales. C'est des affaires qu'on a vécues. Puis en bout de ligne, comme ça a pris plusieurs semaines, se faire dire le comité traîne, peut-être tu t'attends. Ça, c'est un genre d'histoire qu'on a rencontré. Peut-être qu'il y a des comités qui traînent, mais il y a eu ce genre de joute-là. Puis au RUIS Montréal, la rencontre il y a quelques semaines, j'ai été très étonné d'apprendre qu'il y a encore du monde qui patauge là-dedans. Tu sais, tu te dis, franchement. Alors, la conclusion aujourd'hui, ça peut pas être formulaire de consentement unique parce qu'il y a des objets qui sont divers, puis il y a des clientèles qui sont diverses. Fait que si quelqu'un se met en tête de travailler comme ça, mais qu'il le fasse. Par contre, il faut être très, très ferme sur on n'accepte pas des gadgets illégaux ici qui ont pour effet d'induire les sujets de recherche en erreur parce que ça existe, ça. Fait qu'on a juste à dire que ça, on n'en veut pas. Mais il y a tout un travail absolument extraordinaire de créativité pour être capable d'obtenir des documents qui ont du bon sens, qui sont intéressants pour les sujets, dans un contexte où les gens vont avoir des explications qui tiennent la route puis qui tiennent compte de la personne qu'on a devant soi. Fait que le petit formulaire unique au Québec, là, oubliez ça.
Docteur Mazet.
Oui, Jean Maziad du C3S de Vieille-Capitale, président d'un comité d'éthique. Écoutez, je me pose la question tout simplement, pour qui faisons-nous des formulaires de consentement? Et pourquoi? C'est simplement ça que j'aurais comme question à vous poser, mais j'ai pas mal ma réponse, là, mais ça a l'air très simpliste, mais je suis médecin de famille, quand je vois des gens dans mon bureau, là, je m'informe en premier sur comment ils sont, pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Puis on essaye de bâtir quelque chose ensemble. Donc, le formulaire de consentement, tant qu'à moi, c'est un instrument. Il faut juste l'ajuster à notre population.
Okay. Oui, ma question pour à Sylvie. Je sais que vous avez une méthode. J'aurais aimé que le conférencier parle. Je vous remercie de votre contribution. J'en ai appris beaucoup. Comment le comité d'éthique devrait aborder le formulaire de consentement. Donc, à l'Institut de cardio, on m'a expliqué que il y a comme un sous-comité avant qui amène un formulaire finalisé et il peut y avoir des points peut-être délicats.
En fait, ce qui arrive, c'est que le révisé sous-groupe, qui est composé d'un membre représentant du public, de l'éthicienne, de l'avocate et de la coordonnatrice, oui, révise les formulaires de consentement individuellement avant la rencontre. Okay. Ils envoient leurs commentaires à notre bureau, dans le fond.
Là, vous faites la synthèse.
C'est fait. On fait la synthèse des questions et des interrogations qui reste, puis il y a souvent aussi toutes sortes de propositions qui sont faites pour améliorer, pour aider, dans le fond, à ce que le processus soit accéléré. Alors, des commentaires qui aideraient à la rédaction, qu'on pense qu'il pourrait être. Tu sais, parce que quand on lit d'un œil où on ne connaît pas la recherche qui va être faite spécifiquement, on peut être plus en mesure, ce que Guillaume disait tantôt, d'identifier qu'est-ce qui pourrait être simplifié, puis qu'est-ce qui pourrait être améliorer pour favoriser la question du lecteur. Je comprends bien, par exemple, que votre commentaire sur les formulaires de consentement, mais c'est la réalité qu'on a, avec laquelle on vit présentement.
C'est ça. Donc, par exemple, les points les plus chauds, vous pouvez les discuter. Donc, par exemple, la pertinence d'un placebo dans cette étude.
Oui, oui, bien sûr. Okay,
donc,
bien
là,
sûr.
Là, vous allez l'amener, ça va être discuté en comité.
Oui.
Même si le placebo est quand même décrit dans le formulaire.
S'il y a une question qui surgit dans la tête d'un des lecteurs, par exemple, cette question-là va être rapportée au comité, certainement.
Ça, OK. Donc, en moyenne, vous passez combien de temps sur un consentement?
En comité, vous parlez?
Oui, en comité, ou... là, en comité plénier.
En comité plénier, ça dépend de la lourdeur du formulaire de consentement, mais pas longtemps, là, parce que ce qui est discuté, c'est les points.
OK.
Et les points difficiles, alors.
Pas longtemps, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure.
Au maximum, là, maximum, ça peut être okay. Moins long, même.
Ben, je vous remercie.
Prendre une dernière question, Paul.
Ben en fait, c'est pas vraiment une question, c'est surtout un commentaire pour cet après-midi que je trouve qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs, mais je voudrais qu'on parte avec quelque chose de positif parce que j'ai beaucoup aimé par toutes les interventions les petits outils que ça nous donne pour revisiter cette grande question. Complexe qui est la question du formulaire de consentement. C'est pas la première rencontre sur laquelle on se gratte un petit peu le bobo du formulaire de consentement. Donc, j'ai beaucoup aimé le pratico-pratique, mesdames de l'IRDPQ, avec toute la question de l'accompagnement des personnes qui peuvent peut-être être mieux outillés. Donc, je vois là, moi, comme conseillère en éthique, peut-être de la formation. Sylvie, tu l'as mentionné, que le comité d'éthique doit former soit les gens à être plus vigilants sur la simplification des termes. Donc, j'ai beaucoup aimé les nouvelles tâches, en fait, que j'aurai pour mieux outiller les gens. Simplifier le contenu, madame, je m'excuse, j'ai pas votre nom de l'agence, vous nous avez donné toutes sortes de façons très visuelles pour comprendre que le format toujours pareil du consentement qui est peut-être facile, on peut-être aussi le simplifier dans sa forme, ça aide aux participants à lire. Et puis votre idée de l'Institut de procéder à l'audition d'enregistrer quelque chose pour que l'infirmière de recherche puisse faire comprendre le projet aux participants, puis qu'ensuite, elle lui soumet un formulaire de consentement plus simple, qui a déjà un petit peu compris. Ça en augmente justement le respect de la dignité de la personne, de son autonomie. Moi, je trouve que tout ça, c'est, il me semble que je suis plus outillée cet après-midi pour faire des changements ou que ce soit, là, parce qu'avec le nouveau mécanisme multicentrique dont on va entendre parler dans les prochaines semaines, on va tout de même devoir se pencher sur la question d'une amélioration des formulaires de consentement.
Merci beaucoup à tous les conférenciers et pour votre attention. Demain matin, dès 7h30, il y a possibilité de boire du café. Puis, les présentations commencent à 8h15. Ça va être nécessaire.